7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Bonsoir Mickaël Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer, parlons foot et politique sur fond de conflit israélo-palestinien.
Et oui, avec la FIFA appelée à se prononcer sur le statut des clubs israéliens de football implantés dans les colonies, donc en territoires occupés. La question figure à l'ordre du jour du conseil exécutif de la fédération qui se réunit aujourd'hui et demain à Zurich. 5 clubs sont concernés et ils jouent gros puisqu'ils risquent de ne plus pouvoir jouer sur leur terrain et même d'être purement et simplement exclu de la fédération israélienne. Bonsoir Étienne Monin, en direct de Jérusalem.
Bonsoir Mickaël.
Alors la décision de la FIFA n'est pas encore prise, Étienne, mais les Palestiniens évidemment espèrent un verdict en leur faveur.
Et c'est pris très au sérieux dans le club de Malé Adoumim. On est aux portes du désert sur la route de Jéricho, dans une ville-colonie considérée, c'est le statut de toutes les colonies, par le droit international comme une structure illégale. Le terrain de football est un très bel équipement. Il accueille une équipe de 4e division semi-professionnelle dans laquelle Omri Briner, le capitaine, regrette l'utilisation du foot comme levier politique.
C'est un sujet politique et rien d'autre. Pour moi, ce qui ne va pas, c'est que la FIFA essaye de placer des frontières entre Israël et la Palestine. Ce n'est pas à eux de le faire. Il y a des canaux diplomatiques pour cela.
Mais comment cette question des clubs, des colonies, est-elle arrivée à l'agenda du comité exécutif de la FIFA ?
C'est la suite d'une campagne lancée par la Fédération palestinienne. Il y a presque un an et demi, elle a poussé pour l'exclusion de la Fédération israélienne sur les problèmes d'entrave au déplacement de ses joueurs. Les Palestiniens se sont finalement rétractés, mais un comité de surveillance présidé par un Sud-Africain a été mis sur pied par la FIFA pour traiter des problèmes liés à l'occupation. Et la conseillère du président de la Fédération palestinienne, Suzanne Chalabi-Molano, attend de la FIFA qu'elle respecte ses propres statuts.
FIFA statutes clear.
La FIFA dit clairement que chaque fédération est la seule responsable sur son territoire pour organiser ou gérer tout ce qui concerne le football. Elle a sponsorisé, elle a financé des activités, des développements pour la fédération palestinienne, ce qui veut donc dire que la FIFA reconnaît ces territoires comme palestiniens. Si une fédération a des activités sur le territoire d'une autre fédération, alors les règles de la FIFA sont très claires, ça ne peut pas exister.
Cette affaire est un test pour le nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino. Des députés européens lui ont écrit. Les militants de l'organisation Avaz ont mobilisé des jeunes footballeurs avant-hier devant la colonie. Et Human Rights Watch, dirigé dans la région par Sari Bachi, a produit un rapport sur le sujet.
Ces clubs peuvent jouer comme membres de la fédération israélienne, mais seulement à l'intérieur d'Israël. En autorisant ces clubs à jouer sur des terres qui ont été illégalement prises aux Palestiniens dans un contexte de discrimination dans des colonies illégales, la FIFA se trouve complice d'atteintes sérieuses aux droits de l'homme. Et les colonies plus généralement portent atteinte aux droits de mouvement, à la capacité de développement des Palestiniens. C'est précisément la mauvaise chose à soutenir pour la FIFA.
Et est-ce que ces clubs, Étienne, envisagent de se relocaliser en Israël pour rester rattachés à la fédération ?
Évidemment non. Pour les Palestiniens, le terrain est un objet illégal. Pour les Israéliens, c'est maintenant une structure communale dont l'édifice s'écroulerait en cas de décision contraignante, explique Omri Briner.
Si le club ferme ou s'il n'a plus le droit de jouer, ce sera un gros problème. Mais nous, les adultes, on peut trouver une autre équipe et on peut se déplacer. Le gros problème, c'est avec les enfants. Il y a environ 500 enfants ici. C'est eux qui vont rester sans équipe. Et il n'y a pas d'autres clubs, ni dans la ville, ni autour.
Et cette affaire fait du football un terrain d'action diplomatique pour des Palestiniens qui ont épuisé la plupart de leurs leviers. Mais ils craignent d'ores et déjà un report de décision qui risquerait d'affaiblir le dossier.
Eh bien, on va suivre ça de très près. Décision donc ce soir ou demain. Étienne Monin en direct de Jérusalem. Merci.
Et absolument rien à voir, place maintenant Mickaël à une rencontre rare, étonnante, rencontre avec un chef papou.
Oui, avec Moudidje Kepanga, chef de la tribu des Houlis en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On peut même dire qu'il est en quelque sorte un l'ambassadeur de la culture et du peuple papou. Et nous l'avons reçu il y a quelques minutes, ici même dans les studios de France Inter. Moudidje Kepanga venait tout juste d'offrir au Musée de l'Homme à Paris une parure traditionnelle papou, l'une de ses coiffes personnelles, la plus précieuse et surtout la plus riche de signification. Écoutez.
Je suis venu ici en France pour remettre mes parures et ma coiffe la plus précieuse, qui s'appelle Mandare, pour la remettre au Musée de l'Homme. Et c'est un sens très fort pour moi. Vous, les Blancs, vous aimez tout collectionner. Vous collectionnez tous les objets qui viennent du monde et vous aimez les rassembler dans un grand musée. Et vous en prenez extrêmement soin. Je sais que ça fait partie de votre culture de prendre soin des objets. Alors, c'est pour ça que je suis venu vous remettre ma parure la plus précieuse, parce que je sais que vous en prendrez soin. C'est un objet qui est très important pour moi. C'est vraiment le cœur de l'identité de ma culture. Lorsque les adolescents deviennent des hommes, et pendant la période d'initiation, eh bien, nous vivons dans la forêt, nous vivons isolés dans la forêt, et nous faisons pousser nos cheveux. Et c'est comme ça que naît cette coiffe, avec nos cheveux qui poussent pendant plusieurs années. Et c'est sur cette coiffe qu'on va piquer nos plumes. Je suis venu ici parce que je considère que je suis un pont entre nos mondes, entre la France et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je construis un pont et vous faire don de mes parures, c'est créer un dialogue entre nos deux cultures.
Je l'ai remise
parce que je pense que vos enfants vont pouvoir voir ces parures, et les enfants de vos enfants et vos petits-petits-petits-enfants vont pouvoir voir ces parures et comprendre leur sens et comprendre qu'elles sont très importantes.
Et Mudidje Kepanga n'en est pas à son premier séjour en France, et même son 7e voyage chez nous. La dernière fois, c'était lors de la COP21 à Paris. Le chef papou était alors venu porter un message fort de la propre expérience de sa tribu.
Lorsque je suis venu à la COP21, je suis venu dire à tout le monde que nous vivons sur la même planète. Et nous sommes tous impactés par le changement climatique. Si ma nature est détruite, si ma forêt est détruite, vous aussi, vous allez en souffrir. Vous aussi, vous allez mourir. Chez moi, nous connaissons les nuages et nous leur donnons des noms. Certains s'appellent Pipiria, certains s'appellent Canopée. Les Canopées apportent beaucoup d'eau, ils apportent la pluie. Et les nuages qu'on appelle Pipiria, on considère que ce sont comme des fertilisants, des nuages qui apportent de la brume et qui permettent aux plantes de pousser comme il faut. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, ces nuages ne viennent plus sur nos terres, il ne pleut plus, et donc il y a un vrai bouleversement de tout l'écosystème. Vous, les Français, vous mangez du pain. Nous, on mange des patates douces. Et si on n'a pas de patates douces, on ne peut pas vivre. Et à cause du changement climatique, eh bien, les patates douces ne poussent plus. Et il y a de nouveaux insectes, de nouveaux parasites. Et donc, on ne peut plus manger normalement. C'est comme si vous ne pouviez plus manger de pain.
Alors, Mudidje a-t-il eu le sentiment d'avoir été entendu à la COP ? Réponse.
J'ai beaucoup parlé pour la COP21, j'ai été une vraie fontaine à parole. Tous les gens qui ont parlé ont été des fontaines à parole. Les gens du monde entier sont venus parler pour la COP21. Je crois que les gens ne sont pas sourds. Les gens m'ont entendu. Mais est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Est-ce qu'ils ont compris le sens de mes paroles? Ça, je ne sais pas. C'est l'avenir qui le dira.
Et notre chef papou se décrit lui-même, hein, je le cite, comme un homme simple, ne sachant ni lire ni écrire, un chef qui prodigue des conseils à son clan, qui protège ses proches, qui s'occupe de sa forêt, de son jardin, de ses cochons. Et quand je lui ai demandé ce qui l'avait le plus étonné lors de son premier séjour en France, son arrivée à Paris, ben je ne m'attendais pas à cette réponse-là.
J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont vraiment étonné quand je suis arrivé. Mais ce qui m'a le plus étonné, très honnêtement, ce sont les gens qui vivent dans le métro. Lorsque j'ai pris le métro la première fois, j'ai vu des femmes, des hommes qui vivaient dans le métro et qui n'ont pas de maison. Et je me disais, mais ce sont pourtant des frères des hommes blancs, ils devraient avoir une maison pour dormir avec eux. Nous, on ne laisse pas les gens dormir dehors. Et ça, c'est ce qui m'a le plus étonné, c'est que vous laissiez vos frères et vos sœurs dormir dans la rue, parce que ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains comme vous. Chez moi, les hommes, les femmes, nos frères, nos sœurs, les gens qui nous ressemblent, on prend soin d'eux, on leur donne de la nourriture, on leur donne un endroit pour dormir. Mais après, j'ai bien réfléchi, et je me suis dit que c'était une de vos coutumes.
Cet individualisme, vous l'avez compris, étonne et choque même Moudjé Kepanga. Mais à l'inverse, il y a énormément d'aspects de la culture française qu'il adore, et certains surprenants.
Moi, je suis un homme trino, dancio.
Il y a plein de choses que j'adore en France, je dois vous dire la vérité. J'adore le pastis, j'adore les discothèques. Mais plus sérieusement, il y a quelque chose que j'aime particulièrement, c'est que vous les Blancs, vous prenez soin de votre culture. Vous prenez soin de ce qui vient de vos ancêtres.
Et il
y a quelque chose que je trouve très bien chez vous. J'ai découvert récemment que lorsque vous coupez des arbres chez vous, vous les replantez. Alors que chez moi, lorsque des exploitations forestières, des sociétés viennent couper les arbres, ils ne les replantent jamais. C'est ce que j'aimerais rapporter chez moi comme message. Quand on coupe un arbre, on doit le planter.
Et quand on demande à notre chef papou ce qu'il raconte de retour chez lui, justement, la manière dont il nous décrit, nous les Occidentaux, sa réponse est savoureuse, surtout la fin.
Lorsque je rentre chez moi, je dis que les Blancs sont très bons pour faire toutes sortes de choses.
Ils
fabriquent des choses incroyables qui sont difficiles d'imaginer. Ils fabriquent des téléphones, ils fabriquent des avions, ils fabriquent des armes. Les Blancs aiment fabriquer beaucoup de choses pour faciliter leur vie. Ils fabriquent des buildings qui touchent le ciel. Et je dis que les Blancs sont quand même des gens incroyables. Et je trouve que les femmes aussi, d'ailleurs. En fait, ce que je leur dis aussi, surtout, c'est que les femmes sont les chefs. En fait, je leur dis, vous savez, chez les hommes blancs, c'est pas les hommes les chefs, c'est les femmes.
Et voilà, Moudjé Kepanga, le papou qui aimait le pastis, chef de la tribu des Houlis en Papouasie-Nouvelle-Guinée, est traduit par Marc Dozier. À lundi, Nicolas.
À lundi, Michael.